le 7-9.
Et bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 10 mai. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, jusqu'où la folie du marché de l'art va-t-elle conduire les collectionneurs? Le tableau le plus cher du 20e siècle vient d'être vendu cette nuit. Près de 200 millions d'euros pour le portrait de Marilyn Monroe signé Andy Warhol. Récit dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Emmanuel Macron et Olaf Scholz à Berlin hier affichent leur soutien à l'Ukraine. Dans ce journal aussi, les fédérations locales du Parti Socialiste qui présentent leur candidat malgré l'accord avec la France Insoumise. La sécheresse en France, certains agriculteurs décident de changer de culture. Et puis il passe de l'autre côté de la scène, le chanteur lyrique Philippe Jaroussky fait ses débuts de chef d'orchestre.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
50 films, 2 Oscars, une palme d'or, il a marqué en profondeur le cinéma français, lui a donné des scènes magnifiques, a filmé les acteurs comme personne, alors qu'un documentaire sort sur lui demain en salle, Tournée pour vivre de Philippe Azoulay. On reçoit ce matin à 7h50 Claude Lelouch pour évoquer une vie de cinéma.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui répondra évidemment à toutes vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. La salle de vente aux enchères était bondée et le tableau est parti en moins de 4 minutes. Incroyable soirée chez Christie's à New York en plein Manhattan où le roi du pop art Andy Warhol, qui avait ses quartiers, est devenu plus de 30 ans après sa mort l'artiste le plus cher de son époque. Son portrait iconique de Marilyn Monroe s'est arraché à 195 millions de dollars. Depuis cette nuit, c'est l'œuvre d'art du 20e siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques, mieux que Picasso Modigliani à New York, Loïc Loury.
En 1967, le collectionneur Peter Brandt n'avait eu à débourser que 5000 dollars pour s'offrir l'une des Marilyn d'Andy Warhol. Celle d'hier s'est arrachée pour une somme 40 000 fois supérieure. À ce prix, 195 millions de dollars frais inclus, la toile devient l'œuvre américaine et l'œuvre du XXe siècle la plus chère jamais vendue aux enchères. Le tableau fait partie d'une série de 5 toiles carrées d'un mètre de côté, centrées sur le visage de Marilyn Monroe, à couleur saturée, les yeux fardés et mi-clos, avec surtout ce sourire énigmatique, le tout réalisé à partir d'une photo de promotion du film Niagara. Après une saison 2021 record, le succès de cette vente le laisse présager. L'argent devrait encore couler à flot ces 2 prochaines semaines sur le marché de l'art. New York, Loïc Loury, France Inter.
Marilyn Monroe par Andy Warhol, évidemment la combinaison parfaite de 2 icônes populaires. L'acheteur d'hier soir serait le marchand d'art américain Larry Gagosian, mais on ne sait pas s'il a acheté pour son compte ou pour celui d'un client. L'œuvre d'art la plus chère en absolu, toute période confondue, reste toutefois le Salvator Mundi attribué à Léonard de Vinci qui avait été adjugé pour 450 millions de dollars.
Il est 7h04, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ensemble sous la porte de Brandebourg à Berlin hier soir.
Le président français et le chancelier allemand dans ce lieu symbole du déchirement de l'Europe, iconographie réfléchie pour afficher leur plein soutien à l'Ukraine, pour laquelle Emmanuel Macron propose non pas l'adhésion qui prendrait des décennies, dit-il, l'adhésion à l'Europe, mais entrer dans un nouvel ensemble ouvert aussi au Royaume-Uni par exemple, c'est à lire sur franceinter.fr. Les deux dirigeants en tout cas ont pris du temps hier pour peaufiner leurs relations, dîner berlinois avec leurs proches conseillers, car Ludovic Piétonu, chacun a besoin de l'autre pour se relancer.
Une façon d'accueillir l'Ukraine et d'autres voisins plus rapidement au sein de la famille européenne. L'idée d'Emmanuel Macron d'une communauté politique a été accueillie par Olaf Scholz comme le ferait un ami, avec bienveillance et honnêteté. Pas de refus de principe pour Olaf Scholz qui veut avancer avec le président français. Notre objectif, dit-il, est de donner un nouvel élan à l'Europe. Et puis aussi avec franchise. La proposition française ne doit pas bloquer les efforts déjà fournis par les 6 États des Balkans occidentaux qui frappent à la porte. Il ne faut pas les décevoir, fait valoir le chancelier allemand, tout en faisant bien sûr la place nécessaire aujourd'hui à l'Ukraine. Scholz et Macron présideront au mois de juin un sommet des Balkans pour clarifier l'agenda européen de ces États candidats. Ils avanceront ensemble, c'était le message d'unité de la soirée. Macron a bien insisté sur le « nous ».
Nous continuerons de nous coordonner étroitement et d'agir ensemble comme nous l'avons fait depuis le début.
Nous aurons, nous le savons, des décisions importantes à prendre dans les prochains jours au niveau européen.
Ce sera fin mai, l'agenda est chargé, quelques semaines après un sommet du G7 en Allemagne et un sommet de l'OTAN à Madrid. Paris et Berlin ne se quitteront plus, ils planifient un conseil des ministres franco-allemands dans les premiers jours de juillet. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Sur le dossier ukrainien, la réponse de Joe Biden à la parade militaire moscovite d'hier. Le président américain réactive un dispositif de la Seconde Guerre mondiale qui était destiné à l'époque à aider l'Europe à résister à Hitler. C'est la loi de Prébaille, signée cette nuit. Elle donne au président américain des pouvoirs étendus pour soutenir l'effort de guerre et envoyer des armes à l'Ukraine. Et après sa journée européenne d'hier, Emmanuel Macron se recentre aujourd'hui sur la politique bien française et les législatives dans un mois. Il sera en fin de journée au Doc d'Aubervilliers, près de Paris, où se retrouvent dès ce matin les candidats de sa majorité. À gauche, l'accord du PS avec la France insoumise a parfois du mal à passer localement et certains candidats socialistes refusent de laisser leur place. C'est le cas notamment en Moselle, Antoine Gignot.
Ils sont 5 sur 9 circonscriptions. Encartés au PS ou indépendants, ils se présentent contre les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale et avec la bénédiction de leur fédération. Michael Weber, le premier secrétaire de Moselle, les soutient et compte bien financer leur campagne.
Les moyens financiers, on les a. Moi, en tout cas, sur la fédération de Moselle, je les ai. Et je pense que les fédérations doivent, quoi qu'il arrive, prendre en main l'avenir du Parti socialiste. Ça a été un peu le vent de panique face aux résultats de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on a couru pour négocier avec les insoumis dans des conditions d'extrême faiblesse. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait une forme de rébellion.
Quant aux éventuelles sanctions, aux exclusions du parti qui menaceraient les dissidents, pas de réelle inquiétude.
Qu'est-ce qui va arriver aux candidats ? Est-ce que vous pensez vraiment que le Parti socialiste est dans une situation de force aujourd'hui pour se priver d'un personnel politique présent sur les territoires, pour se priver de députés, de présidents de régions, de les exclure ? Moi, je veux bien voir ça, mais je pense que ce serait totalement suicidaire.
Et pour peser sur les débats au niveau national, les candidats de Moselle comptent sur le regroupement de l'ensemble des fédérations socialistes qui affichent leur déception ou leur colère. Fédération du Rhône, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, des Deux-Sèvres. On en compte un peu plus d'une dizaine au total.
Près d'un millier de personnes mobilisées hier en Bretagne à Carhaix, 10 000 habitants, manifestation de défense de l'hôpital dont certains services sont menacés de fermeture. Il est situé à 85 km de Brest. L'alerte vient du ministère de l'Agriculture. La sécheresse qui frappe la France aura un impact sur la production de céréales. Le blé, l'orge, actuellement en pleine croissance, manque d'eau. Pas de chiffrage encore, mais la FNSEA craint des pertes de rendement pouvant aller jusqu'à 40% dans les grandes plaines de Beauce ou de Bourgogne. Face au risque climatique. Certains paysans ont donc décidé de changer leur culture. William Giraud a rencontré Patrick et Dominique Pierre à Neuville-de-Poitou. Ses deux frères ont décidé de se tourner vers le tournesol, moins gourmand en eau.
Au milieu de ces champs, Dominique ne peut que constater à quel point les sols sont secs.
On est sur une année 2005, nous, au niveau de la ressource, voilà, qui était la référence catastrophique sur le secteur. 10 avril, on était coupé, voilà, on n'a pas mis les enrouleurs en route du tout.
Dans ce contexte, passer 25 hectares de maïs en tournesol, c'est une décision que son frère Patrick ne regrette pas, même si avec les pigeons et les corbeaux, il faudra sans doute semer une deuxième fois.
C'est une culture qui est assez peu gourmande en intrants, qui demande un peu moins d'eau, mais la culture de tournesol est la proie des oiseaux et qui implique bien souvent de devoir ressemer.
Financièrement aussi, les deux frères s'y retrouvent avec la flambée des cours. Même si la hausse des charges, notamment le carburant pour les engins agricoles, relativise tout ça, d'autant que la pression sur les matières premières retombera bien un jour.
Ce qui nous inquiète, c'est le moment où on aura acheté nos intrants très très chers et les cours des denrées alimentaires, céréales, oléagineux, vont eux s'écrouler. Et là, il y aura des gros problèmes.
Le tournesol, une plante peu coûteuse à produire, mais qui demande une rotation longue, en moyenne 6 ans avant de pouvoir replanter sur la même parcelle.
Reportage William Giraud, France Bleu Poitou. Le bouleversement climatique, nouvelle preuve qu'il est déjà là, ce chiffre aujourd'hui des Nations Unies. Il y a une chance sur deux pour que la température mondiale annuelle moyenne augmente de 1,5% pendant l'une des 5 prochaines années. Ce risque était quasi nul en 2015.
Il est 7h09, il ne faut pas que la Syrie soit l'oublié des conflits.
Appel des ONG pour la 6e conférence des pays donateurs aujourd'hui, alors que l'aide à la Syrie ne cesse de baisser depuis un an. Le Covid, la guerre en Ukraine sont passés par là. Or, 3 millions de déplacés sont exposés à une grave crise humanitaire, en particulier dans le nord-ouest du pays, dans la région d'Idlib, aux mains des rebelles. Le reportage de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Dans une salle lugubre de l'hôpital capitale d'Idlib, Souher attend depuis des heures avec sa fille de 9 ans atteinte d'une atrophie cérébrale. C'est à cause de la guerre, des armes chimiques, de l'environnement malsain et il n'y a personne qui peut nous aider, déplore cette mère de famille qui vit depuis 3 ans sous une tente comme des centaines de milliers de Syriens déplacés à Idlib. Le problème, c'est le financement des ONG, l'argent de l'extérieur qui s'est presque arrêté, explique un peu plus loin Najwan Rezaran, une pédiatre, en énumérant les centres de soins qui ont réduit la voilure ou carrément fermé ces derniers mois, faute de fonds. Il faut plus d'hôpitaux, plus de services pour ces maladies, les problèmes cardiaques, la santé des femmes, des enfants, des bébés. On a besoin de tout ici, insiste encore la médecin, alors qu'en 10 mois, l'aide internationale au secteur de la santé a été divisée par 2 à Idlib. Baisse aussi de l'aide alimentaire, dont dépendent plus de 2 millions de Syriens, des fonds disponibles pour l'éducation également, déjà très précaires. Il n'y a pas d'argent, pas de moyens, pas de salaire pour les enseignants, décrit Mohamed Al-Shahin, professeur itinérant dans une ONG qui arpente les camps de déplacés pour faire la classe sous détente. J'ai un message aux Occidentaux, c'est de se préoccuper de ce qui se passe ici, parce que c'est dangereux pour l'avenir de ces générations, met en garde l'enseignant, inquiet de ce terreau favorable à l'extrémisme.
Reportage à Idlib d'Aurélien Colli. L'Angleterre inquiète pour sa reine. Pour la première fois en près de 60 ans, elle ne participe pas aujourd'hui à l'ouverture de la session du Parlement, cérémonie en grande pompe au cours de laquelle la souveraine lit le programme du gouvernement. Le trône restera vide. C'est le prince Charles qui lira son discours. Elisabeth II a 96 ans et des problèmes de mobilité, selon Buckingham. Enfin, un chanteur lyrique à la baguette. Grande première demain au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le contre-ténor Philippe Jarouski y fait ses débuts de chef d'orchestre. Il dirige l'opéra de Handel, Jules César, en Égypte. Un passage en douceur des lumières de la scène à l'obscurité de la fosse d'orchestre. Stéphane Capron assistait aux répétitions.
Super le tempo du B, tu vois. Il y a un truc où tu dois tricher. C'est le premier agitero.
Philippe Jarouski a face à lui une collègue, Sabine Devielle. Ils n'ont jamais chanté ensemble sur scène. La soprano apprécie son tact en tant que chef.
Il est très impressionnant, il est vraiment comme chez lui, comme c'est une bonne personne, quelqu'un qui a un grand sens du travail d'équipe, ça marche. J'avoue qu'il fait ça plutôt pas mal.
Et lui, qui connaît parfaitement cet opéra de Handel pour l'avoir chanté très souvent, est très précis dans ses remarques.
Petit conseil de chanteur, c'est toujours à temps, hein. C'est jamais en retard. Mais tu vois, par exemple, quand tu as Fa mi fa sol, Di re mi fa.
Philippe Jarouski, le contre-ténor star, est un chef à l'écoute des musiciens et des chanteurs.
Évidemment, moi j'ai une idée de ce que je veux entendre, mais je crois qu'il faut aussi avoir ce lien, se laisser surprendre par ce que les interprètes en face de soi peuvent proposer, et parfois changer d'avis sur la vision d'un air. Je trouve ça très agréable en tant que chef d'avoir une proposition en face de soi et de se dire « Ah oui, on peut le faire comme ça aussi ».
Une nouvelle carrière s'ouvre à Philippe Jarouski, qui a déjà d'autres projets de chef pour la saison prochaine.
Jules César en Égypte, c'est jusqu'au 22 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le Zoom aujourd'hui à Boutcha en Ukraine. Comment documenter les crimes de guerre?